Alors notre promesse ce soir est forte, hein, puisque nous avons annoncé que nous allions vous donner les tendances les plus porteuses pour lancer votre business en 2017. Pour ça, je suis entouré d'experts ce soir qui ont repéré pour vous les meilleures opportunités, les signaux faibles, les marchés émergents, les nouvelles cibles en B2B ou B2C, etc. Alors que vous soyez encore en réflexion autour d'un projet de création ou bien déjà à la tête d'une entreprise et à la recherche de nouveaux développements, je suis sûr qu'ils auront ce soir des conseils à partager avec vous. Je vais vous les présenter. Je suis ravi d'accueillir Anne-Catherine Péchinot, qui est ici, directrice générale de Gîtes de France. Gîtes de France, vous connaissez forcément, c'est le leader européen de l'accueil chez et par l'habitant, avec 47 000 propriétaires adhérents au label qui bénéficient de la caution de cette marque connue de tous, puisque c'est une des trois marques de tourisme préférées des Français. Anne-Catherine nous parlera tourisme, bien évidemment, mais aussi de la nécessité de choisir un créneau, non pas parce qu'il est porteur, mais parce qu'il nous plaît vraiment et qu'il correspond à ce que nous aimons faire et ce que nous savons faire. À ses côtés, Oscar Boré, qui est responsable innovation et nouvelles activités chez Rent-A-Car. Rent-A-Car, c'est un réseau bien connu également de location de voitures qui compte aujourd'hui plus de 300 agences partout en France. C'est un réseau que Oscar accompagne dans sa transformation digitale après avoir lui-même fondé et dirigé plusieurs start-up. Il nous parlera e-commerce, mobilité, livraison et services. Au milieu de notre assemblée d'experts, Laurent Levasseur, qui est président du directoire de Blue Linea. Blue Linea, c'est une start-up de la Silver Economy, le marché lié au troisième âge. Il travaille sur la mise en place de services et d'objets connectés à destination des familles qui ont des proches seniors qu'ils souhaitent maintenir à domicile et aider à vieillir en bonne santé chez eux. Sa société est passée de 6 à 100 collaborateurs en 4 ans. Plus de 16 000 abonnés à ses services aujourd'hui, dont 700 EHPAD, les maisons de retraite qui sont équipées de ces solutions. Sa société connaît une croissance de 900% ces dernières années. Donc il nous parlera évidemment de ce marché qui est en plein développement et de tous ces marchés liés au vieillissement, mais aussi plus généralement à la santé connectée et ces univers. Nous avons également Diana Filipova, qui est responsable des relations écosystème start-up pour Microsoft France. Alors en clair, ça veut dire que c'est l'ambassadrice aujourd'hui de la marque auprès des start-up et réciproquement. Voilà, ça marche dans les deux sens, le dialogue avec Microsoft et les start-up. Avant de rejoindre Microsoft, Diana a cofondé WeShare. WeShare, c'est un think tank, un collectif associatif qui se décrit comme un accélérateur d'idées dans le domaine du collaboratif. Donc le collaboratif, aussi bien le commerce que la consommation, la finance, la fabrication, la gouvernance des entreprises demain, ou encore le partage de la connaissance. Diana nous parlera high-tech et digital évidemment, mais aussi des opportunités liées au collaboratif. À ses côtés, Éric Duchamp. Éric est président de Pecklers Paris. Pecklers Paris, c'est un bureau de style. Un bureau de style, c'est un cabinet de conseil spécialisé qui, dans le cas de Pecklers, depuis 40 ans, accompagne les marques et anticipe pour elles les tendances et les aspirations des consommateurs. Après avoir particulièrement conseillé toutes les grandes marques de mode et de beauté dans le monde, Pecklers apporte aussi désormais son expertise aux acteurs de la grande distribution et les aide à repérer ce qui demain pourra plaire aux consommateurs, ce qui fera naître chez eux de l'envie et du désir. C'est un poste qui lui permet d'être une vigie des tendances, un éclaireur, un dénicheur de tendances. Il nous parlera donc de son point de vue des marchés qu'il voit arriver et émerger. Et puis enfin, vous le connaissez sans doute, Emmanuel Lechypre, éditorialiste bien connu des téléspectateurs de BFM TV et BFM Business. Il intervient évidemment pour parler économie très régulièrement. On le retrouve avec sa chronique Le Chiffre, Le Chypre et l'émission hebdomadaire La Librairie de l'Écho tous les vendredis à 22h sur BFM Business. Avec lui, nous parlerons du climat général, des tendances générales, et puis aussi du fait, c'est une question qui peut intéresser et qu'on peut se poser, de se lancer dans l'entrepreneuriat en année électorale, puisqu'on sait que c'est une année qui peut être plus compliquée ou plus ralentie à certains points de vue. Voilà pour ce tour de table. Pour commencer, juste quelques rappels et quelques tendances identifiées sur les années précédentes avant d'évoquer celles de demain. Ainsi, en matière de commerce en 2015, pour vous refaire un panorama rapide, ce sont curieusement les magasins de meubles qui se sont le mieux sortis de tout le commerce en 2015, alors qu'on pensait le secteur sinistré, comme quoi le dur et l'ameublement peut encore avoir de l'avenir. Il y a également les agences immobilières et les cavistes, ces trois secteurs qui sont le mieux portés en 2015. L'année passée, on a également vu l'émergence des services aux salariés, type conciergerie d'entreprise, de l'impression 3D, de tout ce qui fait appel à la réalité virtuelle. Et puis sur le marché du conseil, du recrutement et de l'emploi, on est en pleine digitalisation et révolution numérique, ce qui ouvre également de vraies opportunités. Enfin, selon BPI France, il faudra aussi compter dans les mois qui viennent, et nous en reparlerons, avec la Smart Mobility, les déplacements intelligents et verts, la logistique du service et la logistique au service du e-commerce, et puis également la Silver Economy, donc le marché des personnes âgées et tout ce qui touche à la maintenance des appareils high-tech. Alors je ne sais pas, Eric, si ce sont des tendances que vous avez identifiées, si ces tendances de 2015 et 2016 vont pour vous se poursuivre, mais de votre point de vue, vous, d'expert des tendances et de renifleur, quels sont les marchés, pour commencer, que vous avez identifiés comme porteurs pour les mois qui viennent?
Merci, bonjour à tout le monde. Bon, tout d'abord, si c'est pour lancer un business en 2017, il faut que les signaux faibles soient frétillent, parce que si c'est pour faire du chiffre d'affaires l'année prochaine, il faut que ça soit sérieusement un peu plus que des signaux faibles. Bon, je me sens j'ai des responsabilités là, parce que c'est d'essayer de vous donner quelques réflexions, et naturellement ce sont des réflexions qui vont être incomplètes, mais l'idée c'est peut-être de vous donner trois grandes idées des grands domaines tels qu'on peut les voir et tels qu'on peut les observer, et aussi tels qu'on peut les vivre avec nos clients. Là où on sent que ça soit des sociétés assez grosses ou des sociétés à taille plus modeste, que ça soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie où nous nous trouvons, on sent qu'il y a des idées qui sont assez récurrentes. Bon, il y a trois idées que je voudrais partager avec vous, et puis on partagera parce que ensemble et on pourra rebondir. Bon, la première chose, c'est tout ce qui est lié au bien-être. Le bien-être, c'est, on parlait de bien-être, on parlait de beauté, on parlait de choses qui étaient de plus en plus qui va orienter le développement de certains business. Alors naturellement, le business c'est le business des spas, le business du yoga, le business aussi en termes de mode. Si vous êtes familiarisé un peu avec la mode, il y a un terme qui est encore un néologisme, on appelle ça l'athlégeur, qui est une sorte de mélange de l'athlétique et de légère, et qui, et si certains d'entre vous font du yoga, eh bien il y a plein de marques qui se positionnent effectivement en termes de mode sur des choses qui sont moins dans la performance, mais plus dans le bien-être. Et là où il y a pour nous une opportunité très importante de business là-dedans, c'est que lorsqu'on s'habille pour aller faire du yoga, eh bien, c'est pas seulement pour faire du yoga, c'est après le yoga, on sort et on va prendre un verre, et on est encore extrêmement élégant et chic et cool. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Alors, ce qui est très important aussi sur ces histoires de bien-être, et pour les personnes qui sont intéressées par le secteur de la beauté cosmétique, je vous encourage vivement à aller et vraiment vous y passer un petit moment, et vous allez à Cosmoprof à Bologne en Italie. C'est un salon qui, en l'espace de 2 jours, vous allez avoir vraiment toutes les idées possibles, imaginables. C'est un salon qui est orienté sur la beauté cosmétique. Et là, vous allez voir toutes les idées, toutes les initiatives, toutes les technologies, tous les ingrédients qui vont vous permettre, sans aucun doute, d'être inspiré.
Une tendance également sur la santé, vous en parlez, c'est tout ce qui est connecté. Santé connectée, mesure des
voilà. Performances. Voilà, je vais y arriver parce que, il y a un peu moins d'un an, au début de l'année, pour encore une fois, nous on aime bien aller dans naturellement tous ces endroits où on découvre des choses. Il y a un endroit absolument incontournable sur les innovations et sur l'électronique qui s'appelle le Consumer Electronic Show à Las Vegas, qui est un truc qui se passe au mois de janvier, qui est absolument énorme. Et naturellement, tout était, mais il y avait vraiment des étages entiers qui étaient réservés à la santé connectée, c'est-à-dire naturellement on voyait des dizaines et des dizaines de petits bracelets, tout ce que vous connaissez, où vous mesurez vos nombres de pas et les calories que vous brûlez. Mais naturellement, on avance de plus en plus, et ce qui était des idées un peu innovantes, mais on n'y croyait pas trop, deviennent des idées qui sont dans la vie du quotidien, c'est-à-dire les fameux, ce qu'on appelle en anglais les wearable tech, c'est-à-dire vos vêtements, vos chaussures, vos t-shirts commencent à avoir de la technologie embarquée pour mesurer au-delà de votre rythme cardiaque, mais est-ce que vous brûlez comme calories, etc., etc., etc. Tout ça a un impact extrêmement important parce que la mesure, ça permet aussi de contrôler votre santé. C'est lié, là on est bien-être, mais on revient aussi sur la santé et comment monitorer, excusez-moi de ce mot, cet anglicisme, mais pour monitorer votre santé et la manière dont vous allez pouvoir vous soigner au fur et à mesure et suivre un peu votre évolution.
Alors ça, c'est la première tendance.
Juste un exemple, si ça vous amuse. Et je vais essayer de vous donner des noms comme ça, vous pourrez, si vous voulez noter, vous pouvez les vérifier sur Internet, parce que là, j'ai pas d'écran. Mais allez voir un truc que fait un producteur de matelas américain qui s'appelle Sleep Number, qui effectivement développe des lits avec plein de capteurs dans tous les sens, et qui vous permet de mesurer l'évolution, la qualité de votre sommeil. Donc on n'est plus au nombre de pas que vous faites, mais ça va bien plus loin, et c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, pour nous, ça, c'est un truc vraiment majeur et il faut absolument explorer ce domaine-là.
Alors, je propose qu'on parle des deux autres domaines juste après. Juste avant, je voudrais donner la parole à Laurent qui, justement, est présent sur qui non seulement a une Apple Watch qui lui permet de calculer le nombre de calories qu'il a dépensées en venant jusqu'ici, mais vous êtes, vous, sinon, en plein dans ce business-là, celui de la santé, plus que du bien-être, de la santé connectée. Est-ce que c'est à ce point un marché que vous avez vu exploser ?
Alors, le sujet de la santé connectée est un vrai sujet, et c'est pas du tout un sujet technologique. La technologie pour la technologie, ça sert à rien. Le plus important, ce sont les valeurs d'usage qu'on va pouvoir ressortir de ces objets connectés et de ces données. Donc nous, notre entreprise, elle s'est développée simplement en regardant tous ces objets et en cherchant leur utilité au quotidien. Pour un public pour nous qui commence à 60 ans et qui passe maintenant la barre des 100 ans. Voilà. Le plus important, quand on regarde des objets connectés, si on veut sortir de l'effet gadget ou goodies, vous notiez la présence de cette montre, mais ça fait que quelques jours et je ne sais pas encore combien de jours je vais la garder. Concrètement, il y a un an et demi, nous avions tous des bracelets noirs autour des poignets, on en avait tous un peu, on a tous joué avec 2-3 types de trackers, et puis au bout de 3 mois, on les a posés sur un bureau, on a oublié de les recharger, on n'a pas changé la pile, et puis on est passé à autre chose. On a appris qu'on mangeait trop, on a appris que des mauvaises nouvelles. Qu'on mangeait trop, qu'on marchait pas assez, qu'on dormait pas assez, et qu'il fallait qu'on prenne soin de nous. Ça se voit pas, mais je prends soin de moi en ce moment. J'ai déjà perdu 12 kilos, hein. Merci. Non, blague à part. Ça, c'est le plus important. Ce sont les valeurs d'usage qu'on peut retirer de ces objets. Et comme on est au salon des micro-entreprises, moi, je n'oublie pas que j'étais un micro-entrepreneur il y a encore quelques dizaines de mois. Concrètement, réfléchissez à l'utilité que vous pouvez rapporter à quelqu'un en utilisant cette techno, en l'encapsulant dans ce qu'on appellera un abonnement sans engagement, et vous verrez, il y a de fortes chances que vous rencontriez un marché et des clients.
Vous, Diana, qui êtes au contact de tout l'écosystème des startups, est-ce que c'est également une tendance que vous voyez émerger ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises sur ce secteur qui viennent vous rencontrer ou vous croiser ?
Sur la santé. Hein.
Sur la santé et le bien-être.
Alors, je voudrais juste peut-être préciser vraiment ce qu'on entend par start-up, parce qu'on est au salon des micro-entreprises, et pendant 2 jours, il y avait un grand événement organisé par Microsoft qui s'appelle Microsoft Experience, dont une partie était dédiée aussi aux start-up, et une autre aux autres entreprises. Donc, c'est quoi une start-up par rapport à un business, tout ce qui est tout classique qui existait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Eh bien, il y a une petite différence que je vais essayer d'expliquer, parce que c'est assez important de l'avoir en tête. Une start-up, c'est une entreprise qui va avoir quand même une composante technologique assez présente, même si ça ne va pas être forcément ça, sa vraie valeur ajoutée, et qui va pouvoir faire, vous avez dû entendre ce mot plusieurs fois, ce qu'on appelle « scaler ». Donc elle va pouvoir croître très rapidement avec un nombre finalement assez limité de ressources et avec un nombre, un montant relativement limité d'investissement initialement. Il y a une deuxième caractéristique, on parlait notamment du chiffre d'affaires tout à l'heure, une start-up, dans le monde des start-up on va dire, c'est pas obligatoire qu'une start-up soit profitable ou ait un chiffre d'affaires la première année. En fait, c'est plutôt exactement le contraire. Une start-up va perdre de l'argent ou ne pas du tout en gagner pendant les premières années, qui crée en fait un modèle de développement qui est fondé sur un investissement initial extrêmement élevé. C'est ce qu'on appelle le fameux venture capital, le capital investissement, qui acceptent de mettre beaucoup de fonds au début parce qu'ils espèrent avoir un retour très rapide grâce à une croissance exponentielle. Voilà, donc ça c'est la théorie, c'est ce qui pourrait différencier une start-up et un business. Évidemment, la réalité, c'est une infinité de nuances de gris entre ces deux bornes différentes. Voilà. Donc je reviens sur la question des tendances à des secteurs qui sont aujourd'hui très présents. Donc évidemment, la santé, à cause des technologies, notamment de blockchain, qui sont aujourd'hui très présentes dans les assurances, grâce à la capacité à avoir une intelligence artificielle et des bots qui apprennent très rapidement des patterns de comportement et qui sont capables d'identifier des risques, c'est un secteur extrêmement prometteur où il y a des entrants, beaucoup d'entrants, et il y en aura encore plus s'il n'y avait pas quelques barrières plus ou moins réglementaires qui est passées par là. Il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui sont très présents, je voudrais en citer un parce qu'il y a un festival en ce moment qui a eu lieu sur le sujet, c'est la mobilité. Vous avez probablement entendu parler d'Uber. Eh bien, Uber, ce n'est qu'une partie de ce grand secteur de la mobilité. Il y a aussi les voitures autonomes. Il y a toutes les nouvelles formes de transport, en fait, qui reposent sur une régulation des flux grâce, justement, au big data et à l'optimisation sur la base de cette information. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire un tour à un festival qui a lieu en ce moment à la Grande Halle de la Villette, qui s'appelle Autonomie, où, en fait, toutes les solutions et les technologies du transport de demain sont aujourd'hui présentées. Donc la mobilité en est un autre.
La mobilité, c'est un sujet sur lequel vous travaillez justement, Oscar, puisque Rent-A-Car se positionne sur ces nouveaux moyens de transport. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme tendance émerger sur ce secteur ?
Alors oui, bonjour à tous. Effectivement, la mobilité, c'est un marché qui est en pleine mutation. Alors nous, on voit deux forces aujourd'hui principales qui sont en jeu sur ce secteur-là. La première force, c'est vraiment une force de digitalisation des acteurs traditionnels. Ça signifie qu'il y a donc tout un tas de services et de solutions technologiques qui vont devoir être développés pour aider les entreprises classiques dans la mobilité à se digitaliser, à proposer des nouveaux services. Des exemples concrets, je vais vous en donner dans location de voiture. Il faut pouvoir faire des états des lieux dématérialisés, donc il faut que des entreprises développent ces logiciels. Il faut que des entreprises développent des boîtiers télématiques pour permettre aux entreprises de location de voiture de remonter des informations concrètes et donc d'analyser les flux sur les véhicules. Il nous faut des solutions d'ouverture de véhicules à distance. Donc ce besoin de digitalisation existe dans la mobilité, mais pas uniquement dans la location de voiture. Nous avons ça également sur les transports en commun, les tickets de métro électroniques, tous les services de ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire permettre à des clients de pouvoir avoir une vision très claire de l'intégralité des possibilités de transport. C'est-à-dire que vous allez donc aller sur un site qui vous dira, pour aller de Paris à Berlin, vous avez une solution A qui est de prendre d'abord le taxi, ensuite l'avion, ensuite le taxi, ou une solution B qui est peut-être moins chère de prendre le métro pour aller à telle gare de bus et ensuite le bus. La deuxième force qui est en jeu aujourd'hui sur la mobilité, c'est véritablement la révolution de la mobilité. Cette révolution, c'est quoi ? C'est la réinvention, c'est le fait de réinventer des services qui existaient déjà, ou purement et simplement la création de nouveaux services. Donc il y a deux exemples qui aujourd'hui sont très connus. Le premier, c'est BlaBlaCar, qui a réinventé la façon de faire du stop. Et le deuxième exemple, c'est Uber, qui a véritablement apporté une nouvelle façon de consommer du transport de personnes. Alors aujourd'hui, sur ce marché de la mobilité, il y a de nombreux nouveaux services qui vont apparaître. On peut penser au transport de marchandises, avec la possibilité de commander une société comme Trusk qui vous permettra de commander directement une camionnette qui viendra chez vous et vous permettra de transporter votre canapé d'un point A à un point B. On a également
Sur le commerce, la livraison.
Sur le commerce, la livraison. Alors, dans le marché de la mobilité, on a évidemment le développement de tout ce qui est livraison. C'est-à-dire qu'avec l'essor du e-commerce, les clients ont pris l'habitude de se faire livrer chez eux. Donc, comme ils ont pris l'habitude de se faire livrer chez eux, il y a énormément de nouveaux services qui sont apparus par rapport à ça. Donc les exemples, les premiers exemples que vous connaissez sans doute tous, ce sont Deliveroo, Foodora, dans le monde de la restauration, où vous pouvez vous faire livrer directement à domicile. Mais dans la livraison, il y a de nouveaux services qui vont apparaître. Par exemple, la livraison de véhicules. Nous, aujourd'hui, à Rent-A-Car, on aurait besoin d'avoir des sociétés qui pourraient proposer de la livraison des véhicules qui sont dans nos agences à des clients particuliers. Enfin, dans la livraison, on a aussi tout le développement de nouveaux services qui vont être liés, par exemple, au pressing. Aux États-Unis, on a une société qui s'est développée qui s'appelle Instacart, que vous connaissez peut-être, qui a levé 270 millions de dollars et qui permet à des particuliers de se faire livrer leurs courses directement chez eux par d'autres particuliers. Ce qui signifie que vous êtes chez vous, vous êtes sur votre application, et en une demi-heure, il y a un particulier qui va venir et qui va vous apporter vos courses. Donc c'est des services de livraison qui se développent et sur lesquels il y a énormément de choses à faire, alors aux États-Unis, mais aussi en France.
Alors on a vu donc deux secteurs déjà, la santé, bien-être connecté, tout ce qui touche à la mobilité. Eric, chez Pecler, vous avez identifié encore un autre secteur qui est le phygital. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce barbarisme ?
Bon, c'est pas vraiment un secteur, le phygital.
C'est pas un secteur, c'est une tendance.
Voilà. Alors, plusieurs points et qui sont des points de constat. D'abord, il y a une génération dont vous entendez parler tout le temps et on passe pas une semaine, on travaille pas chez nos clients sur le sujet, c'est cette génération des millennials, et qui est une génération...
Ils sont nés en 2000.
En gros, enfin un peu plus, ça va jusqu'à 30 ans passés. Et c'est une génération qui est très digital native, qui a une particularité qui est très très angoissante pour les marques. Cette particularité, c'est que, je caricature, hein, mais ce sont des personnes qui sont plus intéressés par l'expérience que par les produits. Si je fais un peu un résumé, encore une fois un peu caricatural, mais c'est très très vrai par exemple aux États-Unis, si aujourd'hui une personne de cette génération gagne un bonus en fin d'année ou a un peu d'argent devant elle, cette personne va plutôt encore une fois investir ses 1000 dollars dans un séminaire de yoga en Inde plutôt que d'aller acheter un nouveau sac de luxe ou aller acheter un produit assez cher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là je vais connecter aussi un peu avec la technologie, c'est que la technologie, je pense notamment à la réalité virtuelle, et par rapport au fait que cette réalité virtuelle peut créer de l'expérience, et faire que, notamment au niveau des points de vente, retrouver des choses qui connectent finalement le monde physique et le monde digital, d'où le néologisme « phygital », faire que effectivement là on va retrouver finalement quelque chose qui va être une expérience et qui va réenchanter le produit et qui va créer une sorte de effectivement d'expérience produit, expérience d'achat complètement unique et différente. Alors il y a des choses qui sont assez expérimentales. Lorsqu'on va chez Carrefour, on n'a pas toujours l'impression d'être en mode phygital, mais il y a des expériences, il y a des magasins, et encore une fois je vous donne quelques exemples et à aller voir sur le net. Mais par exemple, il y a un nouveau magasin à Berlin qui s'appelle Apparently Different, où là, vous êtes complètement immergé dans une expérience, c'est un magasin de mode, et au lieu d'avoir les produits en magasin qui sont présents, vous choisissez vos produits sur écran, ces produits sont livrés dans votre salle d'essayage avec de manière automatique, et vous avez quelque chose qui va bien au-delà de l'achat simplement d'un produit. Donc c'est tout ce qui va être, effectivement, autour de ça, et c'est d'autant plus important, et là on parle plus des millennials, c'est de leur volonté de moins acheter des produits et plutôt de l'expérience, c'est aussi très important pour des marques qui ont déjà perdu la bataille des prix. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a le discount, des marques de mode qui sont extrêmement peu chères, et lorsque vous êtes obligé, parce que vos marges et parce que vos puissances d'achat ne vous permettent pas d'être le moins cher, vous devez vous servir de la technologie pour réenchanter vos produits, réenchanter votre magasin, et ça nous paraît être une opportunité majeure d'innovation dans ce domaine-là.
L'expérience, c'est ce que vous vendez chez Gîtes de France, justement. C'est une rencontre.
Exactement, et ce qui a été dit est vrai pour le secteur du tourisme et du loisir. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, et ça c'est vraiment une tendance de fond, c'est une montée en gamme. Il y a quelques années, quand je partais en vacances, quand vous partiez en vacances, vous partiez dans un logement qui était au moins aussi bien que chez vous. Mais c'était ça votre critère. Maintenant, quand on part en vacances, on veut que ça soit bien mieux que ce qu'on vit chez soi. On veut un hébergement qui soit bien mieux, parce que les vacances, c'est vraiment quelque chose sur lequel on investit beaucoup. Donc, montée en gamme, réduction de la durée. Les gens vont peut-être partir moins souvent, mais vraiment partir sur des choses qui sont extrêmement bien et qui va les faire rêver, avec une vraie volonté d'expérience. Ce qui est important, voilà, c'est de faire rêver les gens. On le voit de façon très nette. On a un retour à la nature, par exemple, à l'authenticité. Mais les campings dans lesquels on va aujourd'hui, c'est pas les campings à la ferme où on allait il y a 25 ans. Ça va être du camping aménagé où la nature va être présente, mais avec de la wifi sur lequel on va être dans des cabanes dans les arbres, et la notion d'expérience va être extrêmement importante. Ça, on le voit de façon très nette depuis plusieurs années chez Gîtes de France et dans les autres secteurs du tourisme.
Donc le phygital et l'expérience. Encore une autre tendance, Eric, que vous avez notée, c'est tout ce qui est lié à la maîtrise de la technologie. Est-ce que vous pouvez également nous en dire un tout petit peu plus ?
Oui, alors on a, encore une fois, c'était assez marquant au Consumer Electronics Show de Las Vegas au mois de janvier. Il y avait effectivement énormément de salles liées à tout ce qui était wearable tech, la technologie embarquée. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, les valeurs d'usage, le service autour de la technologie, très très important. Il y avait aussi tout ce qui était la maison connectée. Et là, on avait des exemples dans tous les sens. Il est évident que la manière dont on décrypte tout ça, c'est que ça crée pas mal d'angoisse pour les gens, tout simplement. L'angoisse de pas contrôler la machine. On a effectivement cette idée de savoir comment on peut finalement faire de la machine un peu notre alter ego émotionnel pour que ça se passe bien et que ça soit pas un objet froid et distant, mais finalement que ça soit assez proche de nous. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui était sur les écrans il y a 2 ans qui s'appelait Her avec Joaquin Phoenix, où finalement c'est un garçon qui avait un écran chez lui et l'écran commençait à lui parler. C'était la jolie voix de Scarlett Johansson. Il y a pire comme voix et comme ton de voix, et il y avait une relation qui se passait entre finalement la machine et l'acteur, et finalement une vraie histoire d'amour entre les deux. On pense que tout ce qui va aller dans rendre la machine plus émotionnelle, qui va permettre au niveau des interfaces de faire qu'il va y avoir de la sensorialité, rendre la technologie plus chaude et plus accessible, ça nous paraît être, en termes, là, encore une fois, d'innovation technologique, quelque chose de très intéressant.
Et comment ça se traduit en business ?
Alors, exemple, un bon exemple qui va lier des choses qui sont déjà disponibles sur le marché, qui sont les imprimantes 3D et qui progresse, mais regardez sur le net un exemple d'une solution qui s'appelle Tactum, et qui est en fait tout simplement qui projette sur vos bras le reflet d'un bijou, et vous en fait vous jouez avec le bijou comme ça, avec sa réflexion, et puis vous arrivez finalement à fixer le design qui vous plaît, vous validez, vous téléchargez, vous mettez ça sur votre imprimante 3D qui vous imprime en 3D, donc il crée finalement un vrai bijou, et c'est votre création. Et la technologie, naturellement, est là, non pas distante et froide, au moins de vous, mais elle est vraiment en interaction avec vous. Donc c'est un exemple, mais tout ce qui va être des initiatives qui vont aller vers rendre la technologie plus chaude, plus sensorielle, plus proche de vous, plus rassurante aussi, il y aura, encore une fois, est-ce que c'est l'année prochaine, est-ce que c'est une tendance un peu plus dans les quelques années qui viennent, mais là pour nous il y a une opportunité majeure de business.
Diana, vous qui représentez Microsoft aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tous ces nouveaux marchés, ceux qu'on vient d'évoquer, sont forcément liés d'une façon ou d'une autre au numérique et à la technologie, en tout cas les plus prometteurs d'entre eux? Est-ce qu'ils ont tous une dimension techno?
Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à parler de la technologie comme un secteur à part, ou numérique comme un secteur à part, qui serait une espèce de secteur, en fait, de l'économie. La technologie, aujourd'hui, est partout. Et je vais vous citer un exemple qui en fait transparaît, je pense, dans tous les exemples que vous avez cités, que ce soit la mobilité, la santé connectée, que ce soit le retail, c'est l'intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, c'est une sous-couche, presque un protocole, qui va permettre d'entraîner tout ce qui est du code, en fait, du logiciel, du code derrière, pour qu'il puisse fonctionner tout seul avant même que l'humain ait à exprimer sa volonté. Et donc en fait, cette sous-couche qu'on retrouve dans beaucoup de produits, notamment que Microsoft fabrique, on peut penser ne serait-ce qu'à Cortana, vous savez, cet équivalent de Siri avec lequel on parle, qui va en fait parler votre langage et ensuite, en tant qu'agent, retraduire cela dans la langue du code et retraiter un nombre considérable d'informations. Tout cela, en fait, qui est presque invisible à l'œil nu, parce que l'idée, c'est justement que ça soit rendu invisible à l'œil nu, constitue non seulement un secteur, mais en fait, on va dire, un champ technologique de développement absolument incroyable. Et aujourd'hui, dans la Silicon Valley, qui est en fait l'endroit, on va dire, où toutes les nouvelles technologies ont 2, 3, 4 ans d'avance sur nous, il y a les chercheurs, les grandes entreprises, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, travaillent sur l'intelligence artificielle et ses incarnations concrètes, qui peuvent par exemple être les bots, ou les robots, ou les algos, ou le deep learning, ou le machine learning. Donc ça, c'est un peu des mots compliqués. Donc ça, en fait, ça crée des enjeux qui ne sont pas seulement des enjeux d'opportunité, mais des enjeux premièrement éthiques, comme on le comprend très bien, puisque ça communique évidemment avec nos informations, tout ce qu'il y a de plus privé. Imaginez, dans un système de santé connecté, vous aurez un logiciel qui pourra recueillir un certain nombre d'informations sur votre état de santé extrêmement précis. Et donc la question, c'est est-ce que ces informations pourraient être connectées directement à votre assurance ou à votre médecin? Donc ça pose des questions extrêmement complexes. Je ne suis pas du tout en train de vous faire peur, mais il faut y réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'associations et de groupes de travail qui se forment sur ces questions-là, y compris une initiative récente qui s'appelle Partnership on AI, qui a été montée par Google, Microsoft, Facebook, qui ont laissé tomber en quelque sorte les armes de la concurrence pour se poser ensemble et réfléchir à ce que ça va donner demain. Donc tout ça pose des questions, notamment aussi sur la capacité de l'humain. Vous parliez tout à l'heure très justement sur comment on utilise ces technologies-là. Est-ce que ça ne nous effraie pas finalement d'avoir accès à une intelligence qui est infiniment plus puissante que nous? Comment est-ce qu'elle arrive à parler notre langue et faire en sorte qu'on ne soit pas dans un manque de communication, dans une communication difficile? Et donc sur cette interaction entre l'humain et la machine. Ça, c'est un domaine de développement technologique qui est extrêmement important, puisque, et là je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, tout n'est pas question de technologie. Là, c'est une question de design, de dessin initial, qui est capable de donner à la technologie une orientation particulière, qui est celle, par exemple, de parler notre langage plutôt que de nous obliger, nous, à parler le langage de la technologie.
Et pour vous, c'est source de nouveaux business et de futurs business prometteurs autour de...
Je ne dirais pas que ce sont des business prometteurs parce qu'ils existent depuis quelques années et ils sont déjà partout.
Mais ils deviennent accessibles à
plus de monde. Il y a une ubiquité, enfin ce qu'on appelle l'ubiquité en anglais, c'est que c'est beaucoup plus un protocole, la base, une couche qu'une technologie stricto sensu. Considérer ça comme une technologie est un peu compliqué. Donc elle est partout, elle est dans Uber, elle est dans le transport, elle est dans la logistique, elle est dans tout. Et ça, c'est quelque chose qui est une opportunité très importante, puisque c'est à la fois du B2B, donc c'est quelque chose qui va permettre aux business de connecter ensemble, mais c'est également du B2C, puisque ça permet en fait de créer des secteurs qu'on appelle dans le jargon de start-upers, le full stack. C'est-à-dire le full stack, ce sont des entreprises qui parviennent à maintenir tout le marché, en commençant par la production ab initio jusqu'à la distribution. Donc en fait, on risque d'aller aussi vers des marchés extrêmement intégrés ou des entreprises, que ce soit des nouveaux entrants ou des entreprises existantes. Alors sur les entreprises existantes, je pense notamment à Uber et Google et Amazon qui sont tout à fait bien positionnés pour être des entreprises full stack, qui sont capables de devenir des nouveaux monopoles, des nouveaux oligopoles. Et voilà.
Alors Emmanuel, vous qui... Donc on a parlé, on a brossé un panorama assez large de ces tendances et secteurs entre la santé, le bien-être, l'intelligence artificielle, la mobilité, etc. Vous, de votre regard un peu extérieur, qu'est-ce que ça vous inspire que toutes ces nouvelles possibilités de business qui ont l'air de se présenter à nous et à tous ceux qui sont dans cette salle?
Vous avez raison de parler de regard extérieur, parce que moi, la différence de... de tous ceux qui sont ici. Je suis un salarié dans l'âme, j'ai strictement rien entrepris de toute ma vie, donc je vais vous parler comme l'observateur du monde que je suis, mais certainement pas comme un acteur, donc relativiser tout ce que je vais vous dire, et pardonnez-moi d'avance, je serai obligé de vous quitter un tout petit peu avant la fin de cette table ronde. Alors juste moi, qu'est-ce que je vois? Je vois quand même qu'on vit une période qui est une période comme on n'en a pas vécu depuis un siècle. Il n'y a pas un entrepreneur qui a connu la génération précédente de bouleversements que l'on connaît aujourd'hui. Il faut remonter au début du XXe siècle. Cette révolution numérique, elle change tout. C'est une des 10 plus grandes révolutions de l'histoire de l'humanité. Vous avez eu la roue, vous avez eu la machine à vapeur, l'imprimerie, après vous avez eu l'électricité, l'information, et comme ça a été dit, ça n'est pas un secteur nouveau. Elle a les caractéristiques d'une révolution parce qu'elle est à la fois transverse, disruptive, et qu'elle change tout. Elle change la façon dont on travaille, elle change la façon dont on se déplace, la façon dont on se nourrit, la façon dont on se loge, la façon dont on se soigne. Et là, c'est un champ absolument illimité. Nous sortons quand même de au moins un demi-siècle d'économie de perfectionnement, c'est-à-dire que on vivait sur des grandes technologies qu'on a cessé de perfectionner pendant 50, 60, 70 ans. Alors oui, on a fait le TGV, mais bon, le chemin de fer existait déjà, on a fait le Concorde, mais l'avion existait déjà. Donc on était dans une logique qui était où on pouvait se glisser dans des interstices pour perfectionner, pour moderniser. Mais là, on voyait bien, c'était toute la génération des entrepreneurs ingénieurs, un petit peu. Il fallait quand même avoir un minimum de connaissances techniques, peut-être, pour se lancer dans le business. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On a un champ qui est infini, j'ai envie de vous dire, de possibilités, et qui sera ce que vous en ferez, sachant qu'il faut que vous soyez conscient des nouveaux rapports de force qui existent et qui sont vraiment intéressants. D'abord, je trouve que il y a un vrai changement dans le rapport entre la taille de l'entreprise et son marché. C'est-à-dire que là encore, on vit quelque chose de totalement inédit. La première phase dans l'histoire, ça a été des marchés où peu de gens s'adressaient à peu de gens. C'est-à-dire que vous aviez peu de gens qui fabriquaient, et pour peu de gens, c'était, on va dire, la peinture flamande, par exemple. Ensuite, vous avez eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour peu de gens. Ça, c'était le château de Versailles, vous voyez. Et puis après, vous avez beaucoup de gens qui ont travaillé pour beaucoup de gens. Ça, c'était l'industrie automobile au XXe siècle. Et là, pour la première fois dans l'histoire, vous avez très peu de gens qui peuvent adresser un marché mondial demain. C'est-à-dire que 20 types dans un bureau peuvent d'un seul coup trouver une idée qui va impacter le monde entier dès demain. Et ça, c'est radicalement nouveau. Ça veut dire que ce qui est possible aujourd'hui quand vous êtes petit est totalement nouveau. C'est-à-dire que le petit aujourd'hui peut défier le grand, l'agile peut défier le lourd, et ça n'est plus une question de taille. Autre chose qui, moi, me frappe aussi, c'est le nouveau rapport entre l'industrie et le service. On n'est plus dans une économie tirée par l'industrie. Le cycle aujourd'hui de l'économie mondiale, il est fait par les services. Je vous rappelle que depuis 2000, la production industrielle dans le monde, elle a augmenté de 50%, alors que le PIB mondial dans son ensemble a doublé. Donc c'est une économie tirée par les services. Et qu'est-ce que ça change dans le business? Ben ça change tout. Ça veut dire que ce qui compte, c'est que le produit industriel soit au service d'un besoin, et ça devient un élément d'une prestation globale. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Arrêtons de s'embrouiller la tête avec les histoires de technologie. C'est pas votre problème si vous avez une idée. La technologie, c'est un outil. C'est pas à vous de la maîtriser, la technologie. Bien sûr, il y a des gens qui le feront, qui seront là-dedans. Mais c'est pas parce qu'on maîtrise pas la technologie que rien ne sera possible. Donc ce rapport entre industrie et service a changé. Le rapport à l'individualisation a changé. On est sorti de la culture de la masse, de la massification, pour rentrer dans la culture du sur-mesure. Et ça veut dire que, mais ça on l'a déjà dit, le rapport à la propriété a changé aussi. On recherche de l'usage, de l'expérience, et plus d'être le propriétaire. Et donc j'ai envie de vous dire, finalement, le terrain de jeu, il a jamais été aussi grand. Tout est vraiment possible, et donc moi je ne sais pas dire quelles seront les choses de demain. Tout ce que je sais, c'est que quand on est dans une période d'invention et de rupture comme ça, eh ben ce qui compte, c'est de créer les conditions pour laisser foisonner toutes les idées. Vous pouvez faire toutes les plans industriels que vous voulez d'avenir au niveau de l'État pour essayer de se projeter, il n'y a aucun plan qui aurait été capable de penser Google, Facebook ou Amazon. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas. Je vous cite juste, j'avais fait une interview à l'Expansion de Jack Welch, qui était l'ancien patron de General Electric. Il avait une phrase géniale, il avait dit « Market is bigger than our dreams », le marché est plus grand que nos rêves. Et c'est exactement ça. Je vous rappelle juste pour terminer, le fondateur d'IBM, un monsieur qui s'appelait Thomas Watson, en 1943, quand il anticipait dans ses rêves les plus fous le marché de l'ordinateur, est-ce que vous savez combien il comptait vendre d'ordinateurs? Monsieur IBM, en 1943, il pensait qu'il en vendrait 5. Alors évidemment, c'était des ordinateurs qui faisaient peut-être la taille de la pièce ici, mais vous voyez comme même les gens qui sont les plus, qui paraissent les plus visionnaires peuvent se tromper complètement, et voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'ayez pas peur d'oser, parce que dans le service, parce que dans la prestation, je veux dire, tout, il n'y a pas d'idée a priori mauvaise aujourd'hui ou qui peuvent échouer pour des raisons rationnelles. Je pense que le terrain de jeu aujourd'hui est vraiment fantastique pour se lancer.
Et comme le disait Diana juste avant, donc on a tous les moyens de lancer et de créer le futur monopole de demain quasiment. C'est ce que vous...
Ouais, je pense que c'est qu'il n'y a jamais eu autant de possibilités. Alors après, ça pose d'autres questions, effectivement, c'est que très vite, la question du monopolistique se pose. Mais c'est vrai qu'un petit acteur, aujourd'hui, peut demain changer la vie du monde entier.
Alors, vous voulez réagir, Laurent? Oui,
oui, je veux réagir au propos d'Emmanuel. On va faire un petit test entre nous, comme ça on va voir si certains sont réveillés. Qui a une voiture dans cette salle? Levez le doigt. Allez, moi j'ai une voiture. Ok. N'ayez pas honte. Non, laissez votre doigt en l'air. Qui a une voiture? Ok. Qui a Waze? Qui utilise Waze dans sa voiture? Quelle que soit sa voiture. À 5000 euros ou 100 000 euros. Ok? Qui a vu une publicité sur Waze? Eh ouais. Tout est possible. Tout est possible. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que tout simplement Waze, ça a révolutionné le GPS. Pourtant, le GPS, ça a 25 ans. Et ça a tout changé. Même ma femme, pour se déplacer à pied, elle prend Waze.
Eric?
Moi j'aime bien l'idée de ce qu'on les Américains appellent les enabling technologies. C'est-à-dire que là où je suis d'accord avec vous, tout part avec une vision du business avant de partir d'une idée de technologie. C'est-à-dire que quand une marque de beauté cosmétique américaine qui s'appelle NYX, qui a été d'ailleurs achetée par L'Oréal, commence à faire un succès incroyable sur le point justement jusqu'au point d'être acheté par le leader mondial de la beauté, c'est parce qu'ils ont leur vision, c'est la co-création avec les consommateurs. Ils disent voilà, nous on a envie de se rapprocher des consommateurs, on a envie d'être au plus près de leurs envies, de leurs désirs, et on va mettre en mouvement et la technologie va venir au service de cette vision-là. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de réduire les temps d'innovation, les fameux time to market, là, qui permettent de réduire le temps entre le moment où on a une idée, le moment où on développe le produit, et le moment où c'est globalement chez Sephora, sur les Champs-Élysées ou sur la 5e avenue. Donc, naturellement, la technologie en soi, et j'aime bien aussi cette idée de dire que finalement, elle est quasiment invisible, c'est l'interface, c'est l'expérience user qui est la plus importante. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... le point de départ peut naturellement ne pas être la technologie, et ce qui est rassurant pour nous tous, parce qu'on n'est pas tous experts en technologie. Et toute cette idée de service, d'expérience qu'on a évoquée, c'est quelque chose de majeur. L'expérience aujourd'hui, je me rappelle une étude qui a été faite par, je crois, l'Institut Louis Harris auprès des fameux millennials, des millennials déclarant que 80% de ces millennials déclarent « Nous, on est plus intéressés d'acheter de l'expérience que des produits ». Donc c'est ça, partons d'une vision qui va, de toute façon, au bout du compte, qu'on fasse du chiffre d'affaires, du profit en année 1, en année 5, ça marchera si quelque part on répond non plus d'ailleurs un peu moins aux besoins des consommateurs, des clients, mais de plus en plus à leurs désirs, assez parfois un peu enfouis, quoi.
Emmanuel, vous vouliez rajouter ?
Non mais effectivement, je crois que le modèle, pour répondre à ces aspirations, le modèle de croissance change aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien les défis, le vieillissement, on l'a dit, il y a le formidable défi du réchauffement climatique aussi qu'il faut adresser. Et on voit bien que les aspirations des gens aujourd'hui, ça, c'est plus l'être mieux que l'avoir plus. C'est-à-dire que c'est effectivement tout ce qui tourne autour du mieux-être. Et c'est pour ça que quand j'entends parler de théorie de la décroissance, etc., ça n'a pas de sens. La décroissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra revivre comme il y a 50 ans? Non, pas du tout. Au contraire, l'idée, c'est que la valeur, elle viendra toujours de quelque chose. Donc, il y aura toujours de la croissance. Il y aura toujours de la création de valeur. Sauf que la création de valeur, elle viendra moins de la production de marchandises que de la prestation de services. Et, mais c'est pour ça que cette vision un petit peu, culpabilisante du monde où il va falloir faire des efforts, etc. Moi, je n'y crois pas tant que ça. Je crois qu'on va trouver des solutions, mais qui seront des solutions très positif pour l'environnement, etc., notre mieux-être, mais que derrière tout ça, il n'y a pas de stagnation inévitable et que ça va générer de la valeur, ça va générer du business, mais plus forcément dans la production, dans la marchandise et dans l'acte de posséder.
Encore faudrait-il avoir les bons indicateurs pour essayer de mesurer la valeur qui est aujourd'hui pas du tout captée par le PIB et tout le reste, la croissance.
Ça c'est un sujet absolument incroyable. Alors nous on a été les premiers à créer un vrai indice du bonheur par exemple. Je le dis, au monde on a créé le premier vrai indice du bonheur qui est une façon de capter l'expression du bonheur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la seule façon de savoir si les gens sont heureux, c'est quand ils le disent, parce que sinon ça se mesure pas. Mais on voit bien qu'on est sur ces questions-là. Aujourd'hui, on a tout un débat sur la productivité. On la mesure aujourd'hui très très mal. Et je pense que la faible croissance qui est notre lot, nous dit-on, cette espèce de stagnation séculaire, croissance faible à long terme, c'est parce que la productivité, on ne la mesure pas. Comment vous mesurez le fait que dans ce tout petit appareil, vous avez à la fois une calculatrice, une lampe torche, un téléphone, etc. C'est quand même des gains de productivité considérables. Et ça, effectivement, il y a une vraie problématique autour des outils qui mesurent notre économie.
Et comment il retombe en termes de redistribution de la valeur créée sur ceux qui l'ont produite? Donc je pense que c'est les deux enjeux aujourd'hui qui sont les plus difficilement et les plus maltraités, parce que la technologie, si vous l'avez remarqué, c'est ce qu'on appelle le winner takes all, le gagnant prend tout, a tendance à concentrer la valeur au-dessous de 1%, 0,1%, et de laisser ce qu'on appelle la longue traîne se récupérer finalement un tout petit pactole qui est la queue qui traîne derrière, quoi. Bon, c'est plus
les
un aspect, c'est plus une question sociale, pardon.
Les restes.
Exactement, les restes.
Laurent, vous voulez ajouter?
Moi, je reviens un peu à vous tous. Il y a 3-4 ans, on était 6. Nous étions 6 chez nous, on a fait 900% de croissance en 4 ans, et on est coté en bourse sur Alternex depuis 2 ans. Waouh, super. Et depuis 6 mois, on a décidé de se renfermer sur nous. Depuis 6 mois, on a décidé de structurer notre entreprise, notre start-up. Depuis 6 mois, on a fait en 6 mois 1% de croissance. J'ai publié mes chiffres en début de semaine, et mon cours de bourse a perdu 20% en 3 jours, c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas perdu tant qu'on n'a pas vendu, tout simplement parce que j'ai expliqué à des analystes financiers que mon entreprise avait éprouvé le besoin de se structurer. Pourquoi? Parce qu'on est passé de 0 à 15 000 abonnés à nos services, et nous on vise maintenant 100 000. Et si on était allé jusqu'à l'hypercroissance encore pendant quelques mois, on venait de vivre 3 trimestres à plus de 75% de croissance. On a doublé notre équipe en 18 mois. On est passé de, en gros, 40 personnes à 90 en 18 mois. Eh bien, il y a un moment, quand on crée un business, quand on crée une offre, il faut penser aussi à son industrialisation. Il faut penser d'une start-up à qui devient une entreprise de croissance et qui arrive à se développer de manière durable. Pourquoi? Parce que les process internes changent. Donc aujourd'hui, quand vous développez une micro-entreprise, pensez au futur, pensez à la prochaine phase. Moi, j'ai dû recruter des gens un peu tristes, qui viennent de grandes entreprises, qui sont venus dans mon comité de direction, et qui, eux, par contre, trouvent hyper rafraîchissant de diriger cette boîte à mes côtés. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils vont nous emmener vers plus de croissance, et aussi vers continuer à avoir une fiabilité par rapport à nos clients, par rapport à nos utilisateurs. Nous, on n'avait pas d'argent au départ, aucun argent pour se développer. On a trouvé un modèle économique au bout de 5 ans, on a levé un petit peu d'argent pour tester le modèle de l'abonnement, payer nos objets connectés, les encapsuler dans les abonnements, ne pas faire d'engagement, comme ça les gens s'engagent plus vite, et on n'a pas fait de B2C chez nous, on n'avait pas d'argent pour ça. On a fait du C2B, c'est-à-dire que ce sont nos clients qui ont développé un truc has-been, le bouche à oreille. C'est has-been. Eh ouais, vous vous rendez compte que nos clients, ils ont 87 ans d'âge moyen, 3/4 des femmes. messieurs, nous sommes en danger. Et il a fallu
parler fort en plus.
Il a fallu travailler, et il faut parler fort. Il a fallu réussir à convaincre toutes ces personnes qu'on avait un bon service. Le mieux, c'était de le délivrer. Je vais conclure là-dessus. Et Alain Bossetti, qui lance ce salon chaque année, qui en est le président, le directeur, et il m'invite, alors que j'ai pris la décision il y a 18 mois, de plus jamais faire un seul salon des seniors. Alors qu'il y en a un de salon des seniors. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de clients. Les clients qui viennent, ils ont la force de venir. Les miens, ils essayent de rester déjà chez eux en vie, quoi. Et leurs familles sont crevées. Ils s'occupent de leurs parents pendant qu'ils ont leur job. Donc si vous pensez qu'ils ont le temps d'aller faire un salon, quoi. Donc globalement, on a fait autre chose. Il y a mon responsable de communication qui est devenu directeur depuis, il est caché par là. Je lui ai retiré son budget salon et c'est devenu un budget fleur. Waouh ! En fin de compte, chaque année, l'année dernière, on a protégé 15 000 personnes, on a été témoin de 30 000 crises, des chutes, des personnes qui sont décédées en direct, des personnes qui vont mieux, et puis on a accompagné 6 000 hospitalisations. Eh bien, on a décidé de faire des choses assez simples. Appeler la famille pour demander des nouvelles, comment ça se passe, vous faites quoi vous? On s'occupe de votre maman quand vous n'êtes pas là. Ah d'accord. Ensuite, on s'est mis à appeler les voisins qu'on est susceptible d'appeler en pleine nuit pour aller relever la personne âgée qui est tombée par terre, pour lui dire, au fait, hier à 23h, Madame Gambaro, elle est tombée par terre. On vous prévient, elle est à l'hôpital. Ah merci. On a même prévenu des membres de la famille comme ça, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et puis, on a envoyé 5000 bouquets de fleurs l'année dernière. 5000 bouquets de fleurs à 5000 personnes qui sont rentrées chez elles pour leur dire qu'on était contents. Et bien ce bouquet de fleurs, c'était mieux qu'un tweet. Il était posé sur la table de salle à manger et il a fait lui-même son marketing viral. Tout le monde en a parlé, tout le monde a vu qu'on prenait soin et qu'on s'occupait des personnes et c'est plus du tout une question de prix. Le meilleur des services qu'on peut rendre, c'est un service qui prend toute sa valeur quand on en a oublié le prix. Et souvent, pensez juste à ça. Si vous voulez arriver à avoir un marketing viral, c'est comme ça qu'on appelait ça avant, maintenant on peut appeler ça du C2B dès que vous allez sortir de cette pièce, c'est tout simplement en créant de l'étonnement, en allant au-delà de votre engagement contractuel. Vous dites que vous allez livrer en 5 jours, livrer en 2 jours, waouh, ils vont en parler. Ne livrez pas, ne leur dites pas que c'est pour demain et livrez après-demain. Ils vont en parler, mais pas dans les mêmes termes. Pensez à tout ça, c'est gratuit, c'est juste un état d'esprit. Voilà, c'est pour vos tailles d'entreprise, pour la mienne qui est encore toute petite. Tout à l'heure, ma voisine me disait, vous avez une grosse entreprise. Non, c'est tout petit, 100 personnes, c'est rien. On gagne pas d'argent encore. Quelque part, le marché mondial est énorme. Mais globalement, n'oubliez pas ces petits détails. Que vous soyez 1, 2 ou 3, si vous trouvez une utilité, c'est pas le nombre de collaborateurs. Grâce à Dr. Watson d'IBM, vous apercevrez que demain, vous allez enrôler des droïdes d'intelligence artificielle et vous retrouvez avec 100 opérateurs qui travailleront pour vous. Donc, le sujet n'est plus là. Le sujet est juste dans l'utilité que vous allez pouvoir trouver dans un service que vous allez développer. Emmanuel, vous ne me prenez pas pour un fou ?
Je trouve ça génial parce qu'en fait, promettre moins et tenir plus... Si en politique ça pouvait être pareil, ce serait génial, mais manque de bol, c'est exactement le contraire. Et s'il faisait ça, il serait élu, n'empêche, puisque ça marche en business.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Alors, ce que vous dites, c'est extrêmement vrai. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de tout ce qui était collaboratif, économie collaborative, etc. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour des plateformes comme Airbnb, alors au départ comme Uber ou d'autres. C'est qu'ils pensaient en termes de communauté. Nous ne sommes pas en train de recruter des utilisateurs qui sont des numéros sur une feuille Excel et qui nous rapportent tant. Nous avons affaire à des personnes. Et donc il y a un grand gourou qui s'appelle Paul Graham. C'est un investisseur de la Silicon Valley, un entrepreneur, qui a écrit un article qui est très contre-intuitif pour une start-up. C'est « Do things that don't scale ». Faites des choses qui ne scalent pas. C'est-à-dire que les fondateurs d'Airbnb, lorsqu'ils étaient coincés dans leur croissance, il leur a dit « Allez personnellement prendre l'avion et faire le tour de vos clients qui mettent sur la plateforme en location leur appartement. Et allez les voir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent proposer, comment vous pouvez les satisfaire. » Et donc, après, Airbnb ont presque industrialisé, en quelque sorte, au bon sens du terme, cette logique, puisqu'ils ont créé des communautés de guests, d'hôtes à Paris qui se rassemblaient, etc. Donc aujourd'hui, tout ça a un peu changé, parce que c'est là où je veux revenir sur le deuxième point. Quand je vous ai dit 100 personnes, c'est une grosse boîte, oui, c'est une grosse boîte, parce que vous êtes plus de 15, 20 25, vous êtes obligé de vous structurer. Et ça, c'est quand même une différence et un défi considérable pour n'importe quelle entreprise qui croit. Vous disiez tout à l'heure, on a dû recruter des gens pas drôles. Ben ouais, une start-up, à un moment, elle se rend compte, elle a besoin de recruter des financiers.
Non mais ils sont super sympas quand
même. Non
mais
ils sont super sympas, mais c'est des...
Et quand je vais revenir au bureau, c'est ça va être difficile pour moi.
C'est des gens qui font de la compta, c'est des gens qui viennent des grosses entreprises, c'est des gens qui ont toujours, qui n'ont pas forcément l'esprit absence de hiérarchie, horizontalité, camaraderie, qui peut, qui constitue quand même, et je parle au nom de ma génération, des trentenaires qui ne retrouvent pas forcément dans toutes les grandes entreprises. Bon, alors Microsoft, c'est pas du tout pareil, parce que c'est, il y a une culture qui est incroyable, une culture d'entreprise qui est incroyable.
Ah oui, mais depuis la semaine dernière, vous avez un futur. Parce que j'étais avec Jean-Marc Daniel à une rencontre de Société Cotée à Bordeaux vendredi, et on parlait des GAFAMites. C'est-à-dire que les GAFA plus Microsoft, IBM et Tesla.
Exactement.
Donc la bonne nouvelle, c'est que depuis la semaine dernière, votre entreprise a un futur.
Alors ça nous
c'est
arrange
pas,
pas
mal.
Du
et grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est pas mal quand même.
Oui, alors l'intelligence artificielle, vous parlez de ça justement, ça a permis d'être... Bon, alors après, la stratégie d'entreprise, c'est autre chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'une entreprise comme Microsoft, avec des milliers, des dizaines de milliers de gens, et ça n'a rien à voir avec une start-up avec 3, 5, 10 personnes. Et donc, ce moment de passage à l'échelle où, en fait, humainement, ça ne fonctionne pas de la même façon. Il faut avoir des... il faut avoir un business plan, quoi. Enfin, parce qu'une start-up, en général, son business plan, c'est rien, c'est peanut, c'est juste pour plaire à l'investisseur, et l'investisseur le sait, c'est presque une espèce de jeu réciproque, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas tenir ce plan-là. Donc, il commence à avoir des choses qui se consolident, avec des banques derrière, enfin... Et donc, ce moment-là, il est crucial, parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer, c'est qu'on peut se foirer, bon, ça, en général, on essaie de ne pas le faire, et il y a une deuxième chose, c'est que ça casse la culture. Et la culture est tout. C'est ce qui caractérise une start-up, c'est ce qui caractérise ensuite l'esprit de l'entreprise. C'est ce qui fait que vous allez déposer un bouquet de fleurs sur la table alors qu'on ne vous l'a pas demandé, alors qu'une entreprise qui a pas votre culture ne le ferait pas. Et donc cette chose-là, elle est extrêmement précieuse. Il faut la garder comme la ligne de mire au moment de grossir, parce que c'est ça qui fait aujourd'hui l'avantage compétitif immatériel, qui fait que quand vous vous battez pour... l'actif le plus important dans le monde aujourd'hui, c'est pas l'argent, c'est l'attention des gens. Parce que votre attention, elle est sollicitée de partout. Et c'est là où l'attention de votre communauté, elle va rester avec vous, elle va pas s'éparpiller parmi vos 99 concurrents qui pourront vous imiter parce qu'en fait, les barrières à l'entrée aujourd'hui sont très faibles. Et donc, tout le monde peut tout faire. Il n'y a pas de barrières à l'entrée, en fait. À part celles qui sont réglementaires.
Et alors, ça rejoint quelque chose que vous disiez, Anne-Catherine, c'est-à-dire choisir un secteur porteur, c'est bien, mais choisir un secteur qu'on sent et pour lequel on est fait, c'est mieux.
Oui, alors vous êtes là, j'imagine, en train de chercher la bonne idée. Moi, le message que je veux vous faire passer, c'est arrêtez de la chercher. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-le bien. Si vous prenez trop de temps à essayer de trouver une tendance, d'abord, si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Moi, je vois beaucoup de gens qui veulent ouvrir des chambres d'hôtes, ils ne sont jamais allés dans une chambre d'hôtes de leur vie. Faites pas de chambre d'hôte dans ces cas-là. Si vous aimez pas accueillir des gens chez vous, faites pas de tourisme. Mais faites bien ce que vous allez aimer, quoi. Parce que ce que vous allez faire, ça va être votre métier. Donc ça, c'est la première chose. Et seconde chose, à un moment donné, il faut se lancer. Passer son temps à essayer de trouver la meilleure idée du monde, et puis faire des business plans, puis essayer de trouver qu'elle sera encore mieux. Mais pendant ce temps-là, vous avez des gens qui se lancent avec des idées moyennes, mais qui vont les mettre en œuvre, écouter leurs clients, la perfectionner en permanence, et qui vont adapter leur business model et qui vont se retrouver avec une entreprise qui va être florissante. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Quand on est entrepreneur, à un moment donné, ben, il faut se lancer.
Vous aussi, Oscar, vous pensez qu'il vaut mieux se lancer avec une idée moyenne que d'attendre la bonne idée ?
Ah oui, oui, moi je suis vraiment persuadé. Le fait de commencer une activité, en réalité, quand on la démarre, on ne sait jamais où on va finir. Je vais vous donner quelques exemples. BMW, quand ils ont commencé, ils faisaient des moteurs d'avion. Aujourd'hui, ils font des voitures. YouTube, ils ont commencé, c'était un site de vidéos de speed dating. Et Twitter, c'était un site qui permettait de trouver des podcasts. Donc en réalité, quand on lance une activité, on ne sait pas où on va arriver. Et encore plus aujourd'hui, avec les méthodologies agiles et la façon de travailler qui est de dire qu'on va essayer de mettre un produit le plus vite possible sur le marché, pour savoir s'il va fonctionner ou pas. À partir de là, on va pouvoir soit continuer de travailler sur ce produit-là, soit l'arrêter. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment justement de travailler de méthode agile et de toujours avancer, écouter les retours des clients. Donc il faut vraiment l'idée de base, et je ne pense pas du tout que ce soit important.
Laurent, vous aussi, vous pensez qu'il faut essayer et se tromper ? Ou réussir, mais surtout essayer.
Faire un choix, c'est déjà se tromper. Concrètement, quand on crée une entreprise ou quand on se lance dans une aventure, il faut déjà s'attaquer à une aventure ou à une entreprise à laquelle on peut réussir à en avoir les moyens. Si vous êtes déjà fragile dans votre vie personnelle, qu'elle soit financière ou qu'elle soit affective, faites attention. Quand vous allez vous lancer dans cette idée, dans cette entreprise, vous allez modifier certains équilibres. Donc il faut faire attention à ça. Deuxièmement, oui, tout à fait, intéressez-vous à ce qui vous gêne aujourd'hui, au type de service qui vous manque. Quand on parle de Dyson, le type était au chômage, il en avait marre de passer l'aspirateur et de vider son sac d'aspirateur, parce que ça faisait un an qu'il était au chômage. Il a fini par créer un aspirateur sans sac. Et ça, c'est plein d'histoires comme ça. Donc c'est en s'intéressant à des sujets qui vous touchent que vous arriverez à véritablement développer, comme l'a très justement dit madame, une idée qui se rapproche de vous. Moi, je suis pas vieux, mais je sais que je vais le devenir. Je sais que j'ai des parents qui vieillissent, et je m'intéresse à juste une chose. On parle aujourd'hui sur la Silicon Valley de transhumanisme, d'intelligence artificielle. Tous les grands patrons des GAFA, des MIT, d'Alibaba & Co. Ont tous énormément d'argent. Ils ont tous le blues, ils savent plus quoi s'offrir, ils savent plus de quoi rêver. Donc ils travaillent tous aujourd'hui dans la Silicon Valley ou à Shanghai sur un seul sujet, tuer la mort. Parce que c'est ça aujourd'hui leur sujet. L'intelligence artificielle et gagner l'immortalité. Parce que quand on a plusieurs milliards de dollars à sa disposition, la planète est vraiment toute petite. Bon, ben entre-temps, il y a quand même de quoi travailler. Nous, chez Blue Linea, on s'intéresse à simplement faire une chose. Depuis le début des années 2000, c'est ce qui m'a fait démarrer mon entreprise. Je veux juste partager cette expérience. Après, à vous de réfléchir sur vos propres sujets. Depuis le début des années 2000, tous les 5 ans, nous gagnons 18 mois d'espérance de vie. C'est génial. Et par contre, nous ne gagnons que 6 mois d'espérance de vie en bonne santé. C'est ballot. Ben c'est ça qui m'a fait créer Blue Linea. Essayer de comprendre comment avancer. Pas sur les facteurs cliniques, il y a des grandes universités qui travaillent là-dessus, mais sur les facteurs de risque dits physiques et psychiques. Et c'est là où les objets connectés dédiés à la santé sont entrés en jeu. C'est là où on s'est intéressé à pas simplement compter le nombre de pas, mais regarder comment une personne dort, comment elle se déplace dans la journée, comment elle va dans sa tête. Et de là, comment on peut l'accompagner sur quelque chose que vous avez tous devant vous. Il y a des gens qui vieillissent mieux et des gens qui vieillissent moins bien. Pourquoi ? Eh bien, nous, on travaille là-dessus, et comme ça, on a pu délivrer des premiers services. Et on essaye comme ça de conserver des gens chez eux, dans leur espace de vie, dans leur entourage, qui puissent partager des émotions avec leur famille, leurs petits-enfants, des deux côtés, pendant 4 ans, 6 ans, 8 ans de plus. C'est ça. Nous, on s'intéresse à ça, et on vend des petits trucs pour l'instant. Mais notre sujet à nous, c'est ça. Ça peut paraître très ambitieux, mais il a fallu quand même qu'on commence par les petites marches, des détecteurs de chute, des outils comme ceux-ci, pour commencer par un sujet. Et le sujet pour nous, c'est ça. Prolonger l'espérance de vie en bonne santé. J'ai l'air dingue, hein. Non, bon, ça va. Donc voilà, c'est ça le sujet. Donc pour vous, regardez, c'est peut-être, je sais pas, la taille des frites dans ce qui vous gêne, c'est peut-être le fait que les sushis sont pas tous de la même qualité, c'est peut-être, tiens, j'en ai marre, que comment faire pour éviter de sortir les poubelles deux fois par jour, deux fois par semaine, je ne sais pas.
Des bonnes idées. Hein.
Réfléchissez à ces choses-là, et vous verrez, comme l'a très justement dit chacun d'entre nous, le business plan, il sert à rien. Moi, mon associé, qui a 75 ans, il m'a toujours dit, Laurent, un business plan, ça sert à rien, c'est de la littérature. Le plus important, c'est le cash. Et la vraie question, c'est pas, quand on est dans une voiture, est-ce que tu as le plein ou pas? La vraie question, c'est à combien de kilomètres la prochaine station-service. Et donc ça, réfléchissez à ces petits trucs un peu basiques, un peu de bon sens, et vous verrez, peut-être que ça se passera très très bien. Essayez de rester marié aussi, hein, mais globalement, voilà.
Alors là, vous avez vraiment beaucoup de chance parce que vous avez la démonstration en live d'un très bon entrepreneur qui s'est posé les bonnes questions. Non, mais je vous fais pas de fleurs, c'est vrai, c'est juste, je vous prends comme appui
pour les fleurs, c'est lui.
Démontrer des choses.
Je ne sais pas, il y a 23
alors,
minutes. Hein.
Vraiment, la chose, enfin, il vous a énoncé juste pour très simplement un problème qu'il essaie de résoudre. Alors vous vous dites, c'est bon, c'est facile en fait, ça prend 5 minutes. Je ne sais pas combien de temps vous avez pris pour arriver à dégager ce problème, mais en général, les entrepreneurs que je vois, ils prennent énormément de temps pour comprendre c'est quoi le petit problème qu'ils veulent résoudre. Et c'est déjà un premier une première étape, un premier milestone très important, parce que ça prend de l'humilité, ça prend le fait de connaître parfaitement son marché et d'évaluer de façon très honnête avec soi-même ses forces et ses capacités pour arriver à cette petite phrase « je veux prévoir les facteurs de risque, simplifier, améliorer la vie ». Et donc cette humilité en général, elle est complètement en opposition à ce que vous entendez sur « je veux sauver le monde », la start-up qui va trouver qui va résoudre le prochain climat, qui va tout d'un coup nous enlever tous nos problèmes de climat, d'inégalité, de précarité. Tout ça, c'est vraiment, c'est très ambitieux, mais c'est complètement faux, quoi. Je veux dire, une start-up, elle est là pour résoudre un problème, et c'est mieux, effectivement, si c'est un problème qui vous touche profondément, que vous avez rencontré dans votre propre vie, parce que l'empathie, ça joue beaucoup aussi.
Donc on oublie tout ce qu'on a dit depuis une heure, un créneau porteur, ça sert à rien, ce qu'il faut, c'est trouver un problème qui vous touche, auquel on apporte une réponse.
C'est un libre jeu.
C'est bien,
comme
hein,
disait,
ça me va,
comme
moi,
disait un philosophe, c'est un libre jeu entre une capacité plutôt macro d'évaluer le marché, un problème personnel, on n'en a pas encore parlé, mais l'équipe, une équipe qui a des synergies particulières, et c'est pour ça que quand je vous dis c'est un libre jeu, ça veut dire que c'est mieux d'être plusieurs que tout seul. Commencer vraiment tout seul, bah quand on meurt, on est seul au monde. De toute façon, quand on meurt, on est seul au monde. Enfin, je veux dire, quand une start-up meurt, c'est horrible, on est seul au monde, il faut s'y préparer, etc. Mais en tout cas, on est mieux quand on a diversifié ses...
Tout à l'heure, j'ai parlé d'un associé. Éviter de créer une entreprise tout seul.
C'est une folie.
C'est une folie. Parce que déjà, aucun fonds d'investissement, aucun investisseur vous fera confiance à vous tout seul. Soyez deux. Vous allez passer par les moments difficiles, à deux, c'est difficile. Mais à deux, on arrive à attirer la confiance plus que seul. Le facteur humain, à deux, il se réduit. N'oubliez pas ce point, et le salon de la micro-entreprise, ça devrait être le salon des micro-entrepreneurs, à deux, un jour. Je ne sais pas si Alain Bossetti nous entend, mais il faudrait qu'il y pense, voilà, c'est lui qui est... Ok, mais globalement, c'est un sujet, quoi. Si vous êtes tout seul à développer une idée, waouh. Bon courage.
Enfin, les investisseurs, ils ne regardent même pas les personnes. Enfin, une start-up ne passe pas à l'étape quand elle est seule. Et là, peut-être la deuxième chose qu'on pourrait conseiller, c'est prenez quelqu'un qui, un, ne vous ressemble pas, donc complémentarité, et deux, qui est capable de vous dire très rapidement que vous merdez. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est très important. On est dans un monde où les gens vous disent que des choses sympas. Eh bien, pour faire quelque chose avec quelqu'un, il faut avoir quelqu'un qui vous dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre et qui est capable de vous dire de telle façon que vous l'écoutiez. Et ça, c'est de la psychologie de base, mais c'est fondamental pour qu'une start-up puisse passer des moments difficiles. Et il ne faut pas créer une start-up si vous croyez que vous n'allez pas avoir des moments difficiles, où vous ne savez pas où vous allez, où vous avez des difficultés à voir le jour du lendemain, vous avez un cash burn, enfin un cash wall. Donc ça arrive toujours. Et c'est mieux d'être bien accompagné par quelqu'un qui est complémentaire à vous et qui sait vous dire des vacheries sans que vous vexiez et que vous l'écoutiez. Voilà.
Donc apporter une réponse à un problème qui vous touche, être bien accompagné. Eric, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un là qui a un projet et qui est en train de le mûrir pour se lancer?
Non, tout ça est vrai. J'ai pas de. En plus, là, il y a du vécu. Moi, la start-up que j'ai montée, c'était il y a 15 ans et depuis, je vis dans une autre. Une dynamique plutôt d'entreprise et de groupe côté en bourse, donc c'est quelque chose de différent. Je voudrais quand même faire l'expérience me montre que je pense au business plan, j'y crois. Je crois qu'à partir du moment où on est obligé de formaliser ses idées, de mettre des chiffres, et même si naturellement, même mon business plan dans mon groupe côté de l'année prochaine, il va changer, il va bouger. Je ne crois pas aux doigts mouillés dans l'air en disant je fais un business plan et de toute façon j'y crois pas parce que c'est pas le bon truc. Je crois qu'il faut faire attention à prendre le temps dans la réflexion. Moi je vois des là on travaille aussi avec des jeunes entreprises qui sont des start-up, etc., qui viennent nous voir et on essaie de les accompagner sur un décryptage de tendances de marché. Ça demande un peu de temps. Mais tout ce que vous avez dit, encore une fois, est tout à fait juste. Je crois beaucoup, notamment dans le secteur de la mode, le nombre de personnes qui ont développé des succès parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de quoi leur habiller leurs enfants et soudain ils ont créé leur collection, leur marque. Donc tout ça est tout à fait vrai. Et c'est ça que je pense que c'est là où c'est difficile, c'est mélanger le rationnel
parce que c'est difficile une création d'entreprise. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a énormément de, faut payer les salaires à la fin du mois lorsque il faut les payer, etc. Et en même temps, c'était une aventure de culture, d'émotion, d'engagement personnel, d'impact sur la vie personnelle, d'impact sur l'argent personnel. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux, et c'est probablement pas tout noir, c'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre, c'est le bon équilibre entre les deux. Et je crois que c'est très important d'avoir conscience de ça. Et dernier point, on a parlé des associés. Il faut consulter beaucoup de monde autour de soi, prendre conseil, avoir l'humilité d'aller demander des conseils. Et y a des gens qui sont assez désintéressés finalement, qui sont pas votre associé, qui sont pas un fonds, qui est pas une banque. Et aujourd'hui, je crois que aussi, je trouve que les gens sont assez ouverts à ça. Vous allez voir, voilà, moi, j'ai envie de créer une boîte. Dans mon réseau professionnel, on m'a conseillé de vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez me donner votre perspective ? Et c'est très important parce que c'est une vraie décision impactante de créer une boîte. Et il faut trouver ce juste équilibre entre le rationnel et puis la passion, l'engagement. Et puis, effectivement, on n'en a pas parlé pendant ce débat, le fait de dire on peut se planter, c'est pas grave, il va falloir remonter sur le cheval parce que c'est la vie et c'est comme ça que ça fonctionne.
Votre conseil à vous, Oscar.
Moi, je pense qu'il y a un autre point qui est important, c'est la persévérance. Parce que quand on monte une entreprise, on va partager cette idée avec beaucoup de gens autour de soi. Il y a beaucoup de gens qui vont soutenir votre projet, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont pas le soutenir. Et puis au début, ça va être dur et ça va être compliqué. Et le temps que ça se mette en place et que ça avance. En fait, souvent, on voit pas les efforts et on voit pas les résultats de ce qu'on fait. Et on avance et on se dit, j'y arriverai pas. Et puis, un beau jour, en fait, on se rend compte, quand on prend un peu de recul, qu'en fait, on a vraiment avancé. Et il y a des déclics, et il y a des moments où ça repart et on a l'énergie à nouveau. En fait, ce qui est compliqué, c'est de continuer à avancer pendant ces moments où on est un petit peu seul au monde. Je vais vous donner un exemple, Blablacar. Donc Frédéric Mazella, quand il a lancé Blablacar, c'était en 2004. Le service a commencé à décoller en 2009-2010. Pendant 5 ans, il s'est battu, il a cru en son service et il a continué de le faire. Jusqu'à un jour, ça se met à décoller. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est il faut vraiment croire en ses idées et persévérer.
Et votre conseil à vous, Anne-Catherine ?
Je vais dire la même chose que tout le monde, mais ce salon est sous le signe de l'audace. Donc j'aurais tendance à dire, soyez également audacieux, soyez persévérants, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, c'est finalement pas si grave que ça. On fait tous des tas d'erreurs. L'important, c'est de pas en faire beaucoup et de les reconnaître.
Et de pas les refaire.
Et pas les refaire. Voilà.
Bien, notre conférence touche maintenant à sa fin. Je vais peut-être laisser la parole à Alain, qui est l'organisateur de ce salon et qui va sans doute vous donner quelques mots de conclusion. Juste avant de terminer, je vous rappelle donc toujours, n'hésitez pas à continuer à commenter sur le hashtag Salon SME. Toutes les conférences ont été enregistrées, vous pouvez les réécouter en audio prochainement sur le site du salon. Et nous vous donnons deux rendez-vous, les 9 et 10 mars 2017, uniquement sur Internet pour la seconde édition du Salon SME Online. Et l'année prochaine, ici même, ce sera les 26 et 27 septembre, pour le salon SME en live avec, j'espère, beaucoup de projets que vous avez cette année qui seront concrétisés. Voilà, quant à moi, je vous retrouve dans Management que vous avez eu à l'entrée de cette salle. Bonne lecture et bonne fin de journée. Alain, à toi.
Merci Lomig, merci à vous. Alors, juste parce que j'ai été interpellé par Laurent, le salon a changé de nom. Le salon s'appelle plus le salon des micro-entreprises, mais le salon SME, parce que depuis le début, moi je viens du monde de l'informatique, un micro-ordinateur, c'est un package, un petit package à toutes les fonctions d'une grosse boîte. Et donc une micro-entreprise, c'est ça qu'on l'a créé. Et puis est arrivé le régime de la micro-entreprise, le régime fiscal avec les plafonds de chiffre d'affaires, et c'est pour ça qu'on s'appelle maintenant le salon SME. Parce qu'effectivement, on n'est pas le salon avec des gens qui font des boîtes à 30 000 euros dans le commerce et 80 000 euros enfin 30 000 dans le service et 80 000 euros dans le commerce, mais bien pour des associés qui se développent. On est le salon de TPE, de graines qui vont se développer. Après, la différence entre start-up et pas une boîte, vous savez, il y a une définition que j'aime bien sur les start-up. Les start-up, elles ne dépensent pas l'argent de leurs clients. Les start-up dépensent l'argent de leurs actionnaires. Et quand elles commencent à dépenser l'argent des clients, là, elles deviennent des entreprises plus classiques. Un dernier point, enfin, si les gens qui sont live aujourd'hui, je les connais tous, Diana pas bien, mais je connais bien les autres intervenants. Ils sont là parce que moi, je crois qu'il y a des secteurs porteurs. Je crois qu'on peut créer des boîtes, s'ils sont là, le tourisme loisir, la mobilité, la silver economy, on a un salon sur la silver economy dans 6 semaines, la consommation collaborative, et puis Éric Duchamp est là pour nous parler aussi du style, puis Emmanuel qui est parti parce qu'il devait intervenir. Moi, je crois qu'on peut déceler des tendances avant que ça ne vienne des mainstream, donc il y en ait plein. Aujourd'hui, dans la mobilité, il y a plein d'idées à réinventer. Il se passe plein de choses. Donc, on peut être à côté, comme il y a un gros gorille, puis on peut lui enlever les puces, etc. C'est pas grave. Il y a des écosystèmes, il faut les percevoir avant. Quand vous regardez les secteurs dans lesquels les gens créent des boîtes en France, il y a des gros volumes. Dans la mobilité, tout se réinvente aujourd'hui. D'accord. Donc moi je crois qu'il y a des secteurs, bien sûr on peut réussir partout, bien sûr on peut réussir dans la bonneterie, on peut réussir dans ce que l'on veut. Je crois qu'il y a des secteurs, et c'est pour ça qu'il y a des experts qui étaient là. Laurent, la Silver Economy, quand vous pensez, on a 24% de Français au plus de 60 ans, je ne vais pas redire ce qu'a dit Laurent, mais il y a des besoins énormes en proximité, en soutien, en support, en aide, en techno, en service de proximité auprès des seniors. Donc il y a des volumes, ça balbutie. Tout le monde parle de la Silver Economy, je bosse dessus depuis 10 ans, quand tout le monde en parle, les solutions ne sont pas là. Donc je crois qu'il y a des secteurs, et même si on peut réussir partout, et bien évidemment. Et puis, ce que je voulais vous dire également sur les business plans, moi je crois aussi deux choses. Je crois qu'on peut se lancer, tester des idées. Je crois au quick and dirty, comme disent les anglo-saxons. On développe vite, puis après on améliore, je crois à ça. Mais aller voir un banquier et ou un fonds d'investissement avec sans tableau Excel un minimum, je crois que c'est quand même compliqué. Donc je pense effectivement qu'il faut se lancer, qu'on peut tester. Mais je crois qu'il faut, et je suis d'accord avec vous Eric, formaliser ces idées, c'est vachement important. Et puis dernier truc, je voudrais vous dire merci. D'abord merci aux intervenants, vous pouvez encore applaudir. Ils ont pris de leur temps. Merci à vous. Effectivement, merci à vous. L'an prochain, on passe sur 2 jours. On passe de 3 jours à 2 jours, parce qu'on a le salon virtuel en mars et le salon ici à Paris sur 2 jours, avec des formats encore plus interactifs. On a testé beaucoup de choses pendant ce salon, des masterclass où vous êtes plus acteur que simplement spectateur. On va développer ça encore pour que l'expérience visiteur ici soit la meilleure possible. On a, nous, organisateurs de salon, c'est le même défi qu'un commerçant par rapport au e-commerçant. D'accord. Si le commerçant ne change pas, on achète en ligne. Donc pour que vous veniez en ligne, c'est une chose, on veut faire en sorte que votre expérience en tant que visiteur soit la meilleure possible. On y travaille toute l'année et on va encore progresser pour l'an prochain. Merci beaucoup et puis à bientôt.